Abbaye Notre-Dame-des-Dombes, mardi 6 septembre 1994.
Elle va présenter son exposé dans l'heure qui vient, et puis nous aurons le reste de la matinée pour en parler ensemble. Elle doit, vous le savez, expliquer sa stratégie pour des raisons plus actives qui relèvent de la réunion du comité national. Vous avez la parole, madame.
Oui. Merci. D'abord, je vous dis ma joie d'être parmi vous. Vous me faites un grand honneur. Ce groupe des Dombes, j'en entends parler depuis des années. Je ne savais pas très bien ce que c'était, sinon que c'était intelligent et écuménique, les deux mots qu'on pléonasme. Et je suis donc contente de voir enfin ce que je n'avais fait que percevoir ensemble par des rapports tout à fait indirects. Donc je parlerai avec bien du plaisir de Marie. Et c'est vrai qu'il y a un lieu où les apparitions de Marie ne sont ni surprenantes ni miraculeuses et où les rendez-vous sont honorés à tous les coups, ce sont évidemment les évangiles. L'étonnant ou le miracle, c'est peut-être la rareté des manifestations mariales dans les évangiles. La littérature ultérieure s'est empressée de combler cette carence, cette discrétion, par toutes sortes de récits qui nous disent tout sur Marie. Mais nous pourrions, quant à nous, nous demander si cette absence relative ne fait pas partie du message évangélique, si elle n'est pas tout entière intérieure au mystère de la révélation qu'elle sert. Si rare pourtant soit-elle dans les évangiles, la présence de Marie ne sera pas évoquée par moi ici dans tous ses relais et dans toutes ses significations. Je laisserai par exemple l'évangile de Matthieu de côté. J'examinerai ce personnage sous un angle unique, mais à mon sens capital. C'est l'épreuve de la maternité. Et même celle-ci sera amenuisée, puisque je négligerai évidemment les aspects tant rebattus de la physiologie. Ils me rebutent. Je les trouve tels du moins que les a exprimés la tradition patristique latine. Je les trouve renifleurs et impudents. Ça me fait penser à l'islamiste qui surveille sa sœur. Espèce de chien de garde, toujours à... qui finalement déploie tout ce qu'il voudrait cacher, ce qui est le péché d'ailleurs pas mignon du tout du christianisme occidental, lequel, et les juifs nous le reprochent assez, les musulmans aussi, nous tâchons de tout dévoiler, de tout expliquer du mystère de Dieu. Et eux ont le sens de son inaccessibilité sur lequel nous devrions un peu méditer sans doute. Alors, ce que je retiendrai, ce que je négligerai également, ou du moins je ne ferai que le frôler, c'est l'aspect de profonde et pacifique intimité entre la mère et le fils, cette fusion spirituelle que d'ailleurs je ne décèle ni dans les évangiles, ni dans le vécu d'un amour au grand sens du mot. C'est finalement, Marie, c'est l'expérience la plus fréquente qui soit donnée à l'humanité de faire, c'est-à-dire enfanter un être qui n'est pas né. C'est une expérience fréquente parce que nous reproduisons, nous avons des enfants, et l'amour parental, tant maternel que paternel, mais surtout maternel, puisque l'enfant a fait un séjour in utero, c'est-à-dire qu'il a pu passer pour habiter, s'incorporer vraiment à sa mère, eh bien cet enfant va devoir quitter. Et si le philosophe Alain dit de l'amour maternel qu'il est le modèle de tout amour, c'est bien en raison du sacrifice qu'il suppose. C'est que dans l'épreuve, dans l'expérience conjugale, par exemple, L'utopie, c'est de rester ensemble, c'est de rester unis, de durer le plus possible, en vis-à-vis, et qu'il y a coïncidence des intérêts et des bonheurs. Alors que dans la maternité, ce n'est pas du tout ça. L'amour maternel est marqué par le tragique. C'est-à-dire que d'emblée, dès les premiers frémissements de l'enfant, la mère sait, à moins d'être déjà abusive, que cet enfant n'est pas à elle. Il est d'elle, mais il n'est pas à elle. Et que ce qu'elle vivra, son amour, prendra la forme d'une séparation acceptée. Il y a donc cet aspect de déchirement qui fait que l'amour maternel a ceci de spécifique et, à mon sens, qui explique tout à fait qu'il soit le modèle de tout amour, c'est qu'il s'accomplit en acceptant de se détruire. Et c'est une expérience, à vrai dire, très banale, qui fait que je ne dirais pas que Marie est une femme différente des autres. C'est l'expérience la plus fréquente, elle est même plus fréquente que l'amour conjugal, du moins dans les temps anciens. Maintenant, je sais bien qu'on n'a plus de mari que d'enfant. Mais enfin, dans les modèles classiques, c'est l'inverse. Et par conséquent, la vie affective fait beaucoup plus l'expérience de cette séparation qu'elle ne fait l'expérience de la coïncidence ou de la connivence conjugale. Finalement, si je voulais trouver un équivalent de ce dont je veux parler ici dans les évangiles, c'est à Saint Jean-Baptiste que je penserais. Il faut que lui croisse et que moi je diminue, mais ça c'est un propos quasi féminin, n'est-ce pas? Et de même, mais de manière beaucoup plus allusive dans le récit de la création, quand Dieu dit que l'homme soit, faisons l'homme, il sait que ce faire va entraîner, vu la liberté qu'il octroie à cette créature ultime, va entraîner le drame du malentendu, de la séparation, qui sait, du conflit. Alors, c'est pour cette raison que Marie n'est pas différente des autres. Et d'ailleurs, l'Évangile le dit. Tu es bienheureuse, en gunaixi. Elle n'est pas au-dessus, elle n'est pas loin des femmes. Elle n'est pas ce qu'on en a fait, c'est-à-dire, qui se résume d'ailleurs dans un vers de Victor Hugo dans L'art d'être grand-père, le couronnement d'une et l'outrage de toutes. Eh oui, et non, pas du tout. Nous nous y reconnaissons fort bien. Tout ce qu'elle va vivre, c'est des choses que nous vivons à longueur de vie. C'est-à-dire que l'amour parental est un amour qui va accepter l'éloignement, qui recèle cet élément tragique. Parce que c'est une liberté que l'on donne, et ce qui implique le sacrifice d'une part de soi-même, de ce qu'on voudrait, du désir, en somme. L'amour parental, l'amour maternel, n'est total que s'il se vide. Il y a une kénose de l'amour maternel qui me fait parfaitement comprendre l'irrésistible attrait que la Vierge Marie a exercé dans la tradition catholique et que nous autres protestants, nous avons bêtement négligé. C'est-à-dire que c'est vraiment la figure de l'amour évangélique. Et l'Évangile ne l'a nullement estompé. Cet amour qui passe par son déchirement. Et on va donc l'observer dans les deux grands moments, enfin, je divise mon petit exposé en deux parties, l'un qui nous prouvera la réalité de cette dynamique originale, dans l'état de passivité du Christ, c'est-à-dire lorsqu'il n'est pas encore apte à formuler son message. C'est tout l'épisode de l'Annonciation et de la naissance. Et puis l'autre, c'est dans la période d'activité, non plus de passivité de Jésus, où nous verrons qu'il n'y a absolument pas rupture de ton, d'esprit et d'intention entre ces deux morceaux de l'Évangile de Luc. En sorte que lorsqu'on me dit que ces évangiles de l'enfance sont des montages, des choses ajoutées après, j'écoute là le propos d'une oreille assez sceptique. Dans la première moitié, j'ai presque envie d'appeler ça la grande illusion. C'est-à-dire que Jésus va nous être présenté, ou du moins cette maternité, comme peut l'éprouver, le ressentir, tout être qui aborde une telle expérience. Avec le sentiment, j'allais dire de ce cliché à la mode aujourd'hui qui n'est pas debout, mais qui a quelque chose de vrai quand même, d'un enfant merveilleux, qu'on appelle aujourd'hui l'enfant parfait. Et qui laisse croire effectivement que une forme de plénitude arrive et que rien ne peut être comparé ou dépassé par une telle expérience. Et à vrai dire, l'Évangile s'en fait parfaitement l'écho avec cet ange Gabriel qui déboule du ciel et qui vient vraiment annoncer la bonne nouvelle à la jeune fille qui est seule chez elle. C'est l'ange de Dieu, comme on sait, il vient de l'Ancien Testament, il s'appelle Gabriel, c'est celui qui explique à Daniel ses visions. C'est donc un ange professeur, et ça se voit. C'est un annonciateur et un commentateur. Et il parle à voix haute. Moi, je l'entends vraiment tonitrué. En plus, il est cravaté, il est très poli. Et puis, il tient aussi du professeur le fait qu'il rabâche. Et il n'apporte que la bonne nouvelle. Alors, c'est très frappant, ce récit d'annonciation. C'est le côté cérémonial. Il n'arrête pas de saluer Marie, à tel point qu'il finit par la troubler. Il y a d'abord ce merveilleux Kairé, salut, réjouis-toi, comme on sait. Notre bonjour est bien affadi à côté, mais enfin, c'est un peu le même esprit. C'est vraiment... Et puis, bien sûr, toi la remplie de grâce, le Seigneur est avec toi. Hein, ce sont des formules introductives. D'ailleurs, en filigrane, on entend déjà le nom de l'Emmanuel. Le Seigneur avec nous, le Seigneur avec toi. Il est presque... Non, mais ce message est trop fin pour qu'il soit compris encore. Le Christ est prophétisé vraiment à voix très chuchotée ici. Marie ne comprend pas. Alors, il n'arrête pas de saluer, mais sans rien dire du contenu, pourquoi elle doit se réjouir? On ne le sait toujours pas. Alors, elle se trouble, évidemment. La voici bouleversée. Et en même temps, elle a des pensées partagées. Mais qu'est-ce qu'il vient de dire? Sans doute, elle formule des hypothèses. Mais elles sont différentes. Et l'ange va maintenant lâcher son message avec toujours une phrase assez stéréotypée que l'on trouve dans l'Ancien Testament. Ce sont les manifestations de l'ange du Seigneur qui commence toujours par ce fameux « Ne crains pas Marie ». Et avec cette redite, tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Mais on ne sait toujours rien. Et c'est alors qu'après ces phrases introductives, il va enfin livrer son message. Ce message se divise en deux parties qui méritent quand même une observation, car il y a quelques bizarreries. La première, il dit, voilà, tu concevras, tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Fin de la première partie du message. Et l'on peut constater que lui annonce des très bonnes nouvelles, mais des nouvelles qui font plaisir à toutes les femmes. D'abord, tu n'es pas stérile, tu vas concevoir. Deux, évidemment, comme on sait, à cette époque surtout et dans ce lieu-là, il vaut mieux avoir un garçon qu'une fille. Le rêve de la juive, c'est évidemment d'avoir des fils, et surtout le fils premier-né. Pourquoi ? Ben, je vais m'en expliquer tout à l'heure. Et puis tu lui donneras le nom de Jésus qui, entre nous, n'a rien d'original. Si on prend le dictionnaire des noms propres des éditions du Cerf, on voit qu'il y en a vraiment une grande quantité. C'est un nom banal, d'ailleurs, comme Marie, qui est je crois qu'il y en a 7 dans le Nouveau Testament. C'est une question que je pose souvent à mes auditoires. Combien y a-t-il de Marie dans le Nouveau Testament ? Alors les plus doués me disent 3. Enfin, il y en a 7. Et bon, donc, au fond, il lui annonce des choses... Le nom n'est pas original, elle aura un fils qui arrive à la moitié des femmes, même un peu plus, puisqu'il y a 105 garçons pour 100 filles, sous tous les régimes, et elle n'est pas stérile, bien, bon. Jusqu'ici, ça va. Mais alors, deuxième partie, alors c'est là que tout commence, et qu'il annonce un destin tout à fait exceptionnel, et le voici qui se décompose en 3 parties. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut, il héritera du trône, ou Dieu lui donnera sur le trône de David son père, et son règne n'aura pas de fin. Bon, alors, ça évidemment c'est la nomination du Messie. Dans la pure tradition vétérotestamentaire, un Messie de gloire, qui est de la bonne lignée, qui va siéger, qui aura la puissance temporelle, qui aura la... qui sera marqué par une élection évidemment spéciale de Dieu, qui en sera nommé le Fils, même Dieu lui-même est nommé de manière très emphatique, le Très-Haut, et qui, dans le règne, coïncide avec l'éternité elle-même. Ça, c'est la partie tout à fait étonnante. Et lorsqu'on l'étudie sur un plan stylistique, on s'aperçoit que cet ange est vraiment non seulement un ange professeur, mais un ange musicien. Pourquoi? Eh bien parce que ces trois annonces, il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut, et puis son règne n'aura pas de fin, on peut constater que ce sont des séquences qui sont de plus en plus longues. La première est courte, la deuxième est moyenne, et la troisième essaie de ressembler à ce qu'elle annonce, c'est-à-dire qu'elle n'en finit plus, n'est-ce pas? C'est un crescendo, enfin, ces procédés musicaux que les compositeurs connaissent parfaitement. C'est donc une annonce d'une gloire qui est de plus en plus forte, qui est claironnante, qui se termine d'une manière triomphale. Et le dernier mot en est d'ailleurs télos, qui marque aussi le télos, c'est la fin, n'est-ce pas? Le télos du message. L'ange a terminé, il a tout dit de ce messie attendu, la grandeur, l'élection, la puissance et l'éternité d'un tel règne. Ça coïncide parfaitement avec l'attente messianique du temps du Christ. Marie sera la mère de ce Messie attendu, vers lequel tout le peuple a soupiré. Marie intervient. Et l'ange a terminé. Et la voici que... qu'est-ce qui est frappant dans son message, cet ange? C'est la deuxième. La première ne la sort pas du lot commun de la plupart des femmes. L'ange a surtout parlé du fils exceptionnel. C'est là que sa voix s'est majorée, qu'il a pris... sa cadence est devenue ample. Alors pourquoi Marie ne prononce-t-elle pas tout de suite son fiat? Moi je la trouve assez impertinente, je dois vous dire. Il me semble qu'après un tel propos, j'aurais baissé la tête. Et pourquoi d'ailleurs lui prêter dans l'exégèse si souvent une réticence, disant elle a accepté, la voilà obéissante? Moi ça me semble procéder du moralisme, il faut que les femmes obéissent. En réalité, imaginons ses sentiments, elle est ravie. Toute femme espère être la mère du Messie. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle sera bénie entre les femmes, c'est elle l'élue. Mais même aujourd'hui, moi j'ai interrogé, quand je me suis mis à étudier ce texte, mes amis juives. Je leur ai demandé ce qu'elles attendaient de la première maternité. Mais elles m'ont dit, qui sait si notre fils ne sera pas le Messie? Et si d'ailleurs, j'ai été professeur, n'est-ce pas? Mais je n'ai pas besoin d'être professeur pour m'être aperçu du taux de réussite universitaire des jeunes juifs. On appelle ça parce qu'il a une mère juive, ou des musiciens juifs. Il m'apparaît qu'elles y mettent du leur pour ce qui est de donner le carrure messianique à leur fils. Je n'explique pas autrement, sûrement pas par des dispositions génétiques, une sorte de fatalité, de déterminisme qui serait, non pas antisémite ici, mais prosémite. La supériorité intellectuelle des jeunes juifs, mais je l'explique tout simplement par cette sorte de ferveur traditionnelle qui tend à pousser le fils vers une messianité dont la nature est tout à fait encore ignorée. Alors, à mon sens, elle est ravie de cette nouvelle. Et pourquoi ne le serait-elle pas? C'est l'attente de toutes. Alors, c'est ça qui va expliquer son intervention. C'est qu'au lieu de dire tout bonnement, eh bien tant mieux, ou j'accepte, obéissance à vrai dire délicieuse, elle va poser une question et même qui va ressembler à une objection. Pourquoi? Quelque chose, me semble-t-il, l'a choqué dans le discours de l'ange. C'est que tous les verbes qu'il a employés sont des verbes au futur. Tous, pas une exception. Et par conséquent, la promesse qui lui est faite ici est une promesse non réalisée. Il y a un proverbe qui dit « un tien vaut mieux que deux tu l'auras ». Je crois qu'une telle faveur est pour elle si attendue, si chère, si intense dans son désir, qu'elle n'a qu'un réflexe, c'est de se raccrocher à cette promesse et d'en faire un présent. Doter à cette annonce son caractère de futur, ce qui va tout de suite créer le problème. Car finalement, si Elle avait daigné se taire, ici. Eh bien, tout s'expliquait. Elle va se fiancer, elle est fiancée, elle va se marier. Ben, tout est normal. C'est normal qu'elle ait plus tard un enfant, qu'il lui donne un nom. Bon. Rien ne peut être inattendu. Le problème vient de ce qu'elle veut actualiser, une promesse qui l'a ravie et qui lui est si chère. Et elle introduit le premier verbe au présent, puisque je ne connais. Au fond, elle crée le problème. Alors, il y a problème, effectivement, du fait d'actualiser une promesse qui s'est dite au futur. Elle l'entend au présent, et du coup, ça crée une objection, je ne connais pas d'homme. Et par conséquent, la question qu'elle va poser va porter non pas sur le qui, le pourquoi, mais sur le comment. Et on notera bien d'ailleurs qu'elle ne pose aucune question sur la partie stupéfiante, médusante du message, qui est la messianité, la grandeur du Fils, c'est-à-dire toute l'anomalie profonde de l'annonce. Aucune question, ça va de soi. En revanche, elle pose ses questions sur la partie la plus naturelle, la plus normale qui soit, c'est-à-dire le début du message. Le fait qu'une femme qui va se marier est un enfant. C'est ça qui va lui faire problème. Elle crée le problème. Bon. C'est ensemble son impatience, sa fébrilité qui crée le problème. Elle veut tenir ce qui lui est dit, elle le veut mettre au présent, ce qui est encore au futur, ce qui oblige l'ange à parler. On a pu constater qu'il était discret jusqu'ici, et qu'il n'avait absolument pas nommé la modalité qui la rendrait grosse du Christ. Par conséquent, c'était un ange aussi pudique, comme tous les universitaires. Il ne voulait pas en dire plus, mais elle va l'obliger, elle le retient par l'aile. Ce silence angélique, à moi, je le trouve absolument charmant. Mais là, il est obligé de parler, ça le choque. Enfin, ça le choque. Je crois que ça choque un peu l'Évangile, car il n'y a pas de théophanie dans l'Évangile. On ne voit pas Jésus ressuscité, on ne le voit pas monter dans sa gloire. Même la transfiguration est réservée à très peu, d'ailleurs il n'y voit que du feu, la preuve, le comportement de Pierre. Bref, ni pour apparaître, ni pour disparaître, il n'y a de théophanie. Et d'une certaine manière, elle demande, n'est-ce pas ? Et l'ange, donc, va lui faire une réponse elliptique, car il ne veut pas sortir de ce secret. Et on observera que la réponse qu'il lui donne est tout à fait frappante, c'est que tous les mots employés, alors je ne dis pas qu'il n'y ait pas là une intention politique à l'égard des lecteurs grecs pour qui les incartades de Jupiter chez les nymphes étaient monnaie courante, et il ne faut pas de confusion avec ce type d'intervention divine et les galopades de Jupiter parmi les femmes terrestres. Par conséquent, alors, mais outre cette intention donc politique, mettons, habile, l'ange sait bien ce qu'il dit. Et tous les mots qu'il va employer sont des mots de non-contact, des mots qui vont évoquer plutôt des actes de piété, c'est-à-dire la présence de Dieu au-dessus de l'arche, avec ce préfixe épi qui marque qu'il n'y a pas contact, mais qu'il y a au-dessus, n'est-ce pas ? Et on note que les mots sont immatériels, le pneuma grec, hein, qui est un souffle invisible. De la même manière, la dynamis, qui est une force, mais qui n'est pas incarnée. Le Dieu lui-même est nommé comme l'upsistos, le Très-Haut. Hein, il y reste, d'une certaine façon. Et puis, qu'est-ce qu'il fait ? Il va la couvrir de son ombre. Et l'ombre, qu'est-ce que c'est ? C'est rien, une ombre. C'est quelque chose d'immatériel. Autrement dit, il a sauvé tout ce qu'il voulait sauver, à savoir la distance, le caractère caché, une intervention qui est toute spirituelle, qui est comme un passage nuageux. Voilà la réponse qu'il lui fait. Puis ça continue. Alors là, c'est là que ça devient grandiose. Ce qui va en dire un peu plus. Il ajoute « Yokai to genomenon agion tletesetai iostei ». Il faut bien regarder cette phrase, car à mon sens, elle est capitale. Car l'ange, vous voyez qu'il a continué à parler au futur, imperturbablement, comme s'il n'avait pas entendu, puisque je ne connais pas d'homme. Continue à parler au futur. Il ne lâche pas prise. Et pourtant, il va introduire pour la première fois et pour la seule fois, du moins dans la partie importante de ce message, après quand il parle d'Élisabeth, c'est tout à fait autre chose, mais il va introduire un verbe au présent. Ce sera le seul que les traductions en général négligent. Bon, quand je vois écrit, c'est pourquoi ce qui va naître de toi, qui est saint, etc., sera appelé fils de Dieu. Alors le clétécétaï reste un futur, c'est vrai, mais le mot important n'est pas là. C'est ce togénoménon qu'il faut traduire comme il mérite de l'être. Ce qui est en train de germer sera appelé. Un détail, puis après il va recommencer, il est pudique, je répète. Et après il va recommencer, il va revenir sur son terrain où il est plus à l'aise. C'est-à-dire qu'il va repartir dans le langage de la gloire. Sera appelé fils de Dieu, et voilà, Élisabeth apparente, est déjà enceinte, et puis d'autre part, rien n'est impossible à Dieu. Alors là, il fait son cours, c'est parfait, on le connaît, et il reprend son assurance. Mais il y a dans son discours un léger tremblement qui est traduit, lorsqu'on examine le texte, et qu'on pense toujours à la musique, qui se traduit par une curieuse caractéristique syllabique, c'est qu'il se met à parler à voix très basse. Et ça s'entend. Et aucune traduction, malheureusement, ne peut le rendre. Il a supprimé toutes les consonnes rudes et toutes les voyelles sonores, à savoir le A, le I, tout ce qui est onitru, tout ce qui est trompette. Entendez bien, il n'y a plus que des sonorités assourdies, très douces, celles qu'on murmure, presque la bouche fermée. Dio, dio kai to genomi. C'est le silence. C'est ce que, au fond, ça fait penser, bien sûr, à la manifestation de Dieu auprès d'Élie. Petite brise, et non pas orage, ou éclair, ou incendie. Rien qui éblouit, rien qui assourdit. Mais ce que Lévinas, dans les exercices de la patience, appelle la voix de fin silence. C'est l'apparition de Dieu. Elle est non théophanique. Elle est, si j'ose dire, cryptophanique. Pas d'autre mot, voix de fin silence, ce qui est en train de naître, et il l'a dit, n'est-ce pas? Puis il reprend, bien sûr, sa fanfare, il renchérit comme s'il en avait trop dit, et il se met à détourner la conversation en parlant de Dieu, d'Élisabeth, elle ne lui a rien demandé, elle n'a pas fait comme Zacharie en lui demandant à quoi reconnaîtrais-je? Non, ça lui est égal. Marie n'en a pas demandé tant, mais d'une certaine manière, il se dérobe, il s'en va sur la pointe des pieds. Il en a peu dit, mais il en a trop dit. Et il ne veut pas rester sur un tel sujet. Il y a donc un contraste entre ce mystère intime dont il vient de révéler quelque chose. Et à mon sens, c'est à ce moment-là que se produit la conception virginale. Il y a donc un contraste entre ce mystère tout à fait intime dont Marie est avertie d'une manière très très subtile, et puis après la publication plutôt nitruante des grands titres messianiques. D'une certaine manière, elle a droit au génoménon, et tous les autres, c'est-à-dire le lecteur, mettons qu'il y a un entourage, plus tard, n'ont droit qu'au Fils de Dieu. Mais elle a quelque chose de plus. La réponse de Marie est tout à fait saisissante, c'est qu'elle a parfaitement compris la nature de cette conception, qui n'a rien d'érotique. La preuve, elle va se désigner par le mot qui met le plus un être à distance d'un autre, c'est-à-dire le mot doulé, la servante. Quoi de plus loin, humainement, à cette époque, quelle distance plus grande que celle d'un maître et de sa servante. On peut être compagnon, on peut être frère, on peut être compatriote, on peut être époux, on peut être sœur, on peut être que sais-je donc. Mais c'est sans doute le mot qui met le plus de distance entre un maître et un autre. Elle respecte cet écart de la révélation angélique vis-à-vis du Très-Haut. Et elle prononce d'ailleurs sans voici, mot à mot, avec une voix elle-même qui est celle comme une voix très, très douce. Ah, je lis en grec. Nous, nous traduisons, mais comment ferions-nous autrement? Le français est le français, avec toute sa lourdeur, quelquefois. Voici, je suis la servante du Seigneur, n'en parle pas. Écoutez en grec. Idou, idou. C'est donc une sorte de petit chantonnement. Et on remarque qu'elle ne parle pas au Seigneur comme fera Siméon, sa figure symétrique, l'autre doulos, des récits de la naissance. Lui, il parle au Seigneur. Despota, il a un vocatif, elle non. Elle observe cette distance qu'a marquée l'ange. C'est la même pudeur. Elle lui parle à la troisième personne. Un peu comme Adam devant Ève, et peut-être pour les mêmes raisons, ne parle pas à Ève, mais il parle d'Ève. C'est la même chose. Elle admet cette distance avec respect, avec ce caractère profondément elliptique qu'avait l'ange, qu'on appelle la pudeur. Avec l'ange, par contre, elle est cavalière, car elle lui parle le tutoie. Qu'il en soit, selon ta parole, hein, elle est moins intimidée. L'ange n'est pas Dieu. Et le Nouveau Testament dissocie évidemment l'ange et le Dieu. Bien. Alors l'ange.